Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le temps, rarement nous n'avons autant qu'à l'occasion de ce temps de confinement, presque touché du doigt le temps, un temps qui semble s'étirer, un temps tour à tour plus lent, plus dense ou plus lourd, un temps presque comme arrêté nous convoquant à un temps plus intérieur, lui peut-être plus en ébullition, plus inquiet. Pour nous aider en cette dernière émission de la saison à relire cette expérience si singulière, je vous propose de nous laisser prendre par la main par une professeure de français. Non pas tant pour nous faire réviser nos temps et nos conjugaisons, quoique, que pour nous montrer que la littérature française est pleine de cette réflexion sur le temps et peut-être même pleine de sagesse. Le temps dans la littérature, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, dernière émission de cette saison si particulière de l'année 2019-2020 avec vous, Violaine Géraud. Vous êtes agrégée de lettres modernes et professeure de langue française à l'université Lyon 3. Bonjour.
Bonjour, et je suis ravie d'être là. Merci beaucoup de m'avoir conviée.
Eh bien, avec joie. Donc, il faut préciser tout de suite que vous êtes tarnaise, et c'est pour ça que vous avez pu faire un détour par nos studios. Les invités viennent parfois de loin, mais quand même pas. Enfin, Lyon, en tout cas, aurait fait un long trajet. Alors, on va parler du temps, avec cet angle si original du temps dans la littérature. On verra même que parfois, vous débordez un peu, vous parlez un peu philosophie. Au risque de lasser les auditeurs qui en ont entendu parler en long, en large et en travers, mais en même temps en faisant notre travail qui est d'essayer de les inviter à ne pas passer trop vite sur cette expérience, quelques questions au début sur le confinement. Alors tout simplement, puisque vous m'avez autorisé à le faire, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemblait votre confinement et peut-être plus précisément, est-ce que vous aussi, Violaine Géraud, vous êtes posé des questions autour du temps ?
Le confinement pour un professeur des universités, c'est un temps qui n'est pas si différent de celui qui lui est coutumier, hormis qu'il ne rencontre ses étudiants que par des moyens technologiques, c'est-à-dire par écran interposé, via des mails qu'il envoie. Voilà. Donc, ce qui m'a manqué, c'est le contact physique, ce qui est devenu le présentiel. Aujourd'hui, on a ce terme très étonnant de présentiel opposé à distanciel. Un professeur, c'est quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur le regard, sur la gestuelle, qui voit ce que font ses étudiants ou ses élèves, tout dépend du niveau auquel on enseigne. Et il est évident qu'être devant un ordinateur, c'est une expérience très étonnante, quelque chose de l'ordre de la désincarnation d'une certaine façon. Et ça permet de mieux comprendre à quel point ce métier de la transmission est un métier, je dirais, charnel.
Voilà, dans ce cas-là, je me sens un peu moins seul parce que je sais pas si le journaliste est aussi, c'est la passion de la transmission d'une certaine manière, même si je me prends pas pour un prof d'université, mais nous ne voyons jamais personne. En tout cas, vous les voyez pas aujourd'hui. Est-ce que ça a été aussi l'occasion pour vous, en fait, d'éprouver le temps d'une manière différente, ou est-ce que parce que votre travail a continué avec de multiples contraintes qu'on imagine et parfois une exigence peut-être plus importante, pas tout à fait. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet?
La difficulté de ce temps de confinement, c'est qu'il n'y a plus la rencontre et la convivialité. Et que, d'une certaine façon, il n'y a plus que le travail et le quotidien qui devient beaucoup plus pesant. C'est là qu'on découvre que s'oublier dans des petites fêtes avec des amis. Bon, je n'ai pas été adepte de l'apéritif par Skype ou par visioconférence. Je sais que ça s'est fait. Mes enfants l'ont pratiqué, mais je ne suis pas de la même génération qu'eux. Et j'ai vraiment ressenti le manque de ces moments où on s'amuse ensemble autour d'un verre. Voilà, ça, c'est ce qui m'a le plus manqué, je le dis bien sincèrement. Alors, comme toujours, il y a une contrepartie, il y a un gain. Pascal, que peut-être nous retrouverons à l'occasion de ce parcours, disait dans ses pensées que pour l'homme, la plus grande difficulté, c'est d'être capable de demeurer dans une chambre, c'est-à-dire d'être capable d'être confronté à lui-même. Voilà, et ça, je crois que c'est l'expérience que nous avons tous fait. C'est d'un côté, il n'y avait plus la dissipation, et de ce fait, ce que Pascal appelle le divertissement, pascalien, hein, bien sûr. Et de ce fait, nous avons été confrontés à nous-mêmes et il y a beaucoup à gagner à se confronter à soi.
Autre question à propos du temps, c'est un article, une réflexion que j'ai tiré du JDD, c'était en date du 1er mai dernier, c'est un certain Étienne Klein qui est directeur de recherche au CEA, commissariat à l'énergie atomique, qui commençait sa tribune, je crois que c'est plutôt une tribune, en soulignant qu'on a tous vécu en fait... probablement d'une manière ou d'une autre, une forme paradoxale du temps. Et alors il dit ce mélange sidérant d'hyperconnectivité numérique à l'occasion de ce temps et de jachère sociale, d'urgence absolue et de calme apparent, de tranquillité dans les rues et de course contre la montre en certains autres lieux. Est-ce que ça, pour vous, c'est aussi important de le souligner? À la fois, je le disais, ce temps qui s'étire et en même temps, on était soi-disant en guerre. Donc, oui. Est-ce que ça vous a frappé aussi ?
Oui, je pense que ce confinement a révélé, bon, c'est un peu ce que je vais dire un cliché, hein, mais des inégalités sociales dont on n'avait pas forcément conscience avec tous les soignants qui étaient dans l'urgence, c'est-à-dire dans un temps qui file, dont on n'a plus la maîtrise. Tous ceux qui montaient au front, les travailleurs, les livreurs, les petites gens dont il fallait bien qu'ils assurent le quotidien des autres. Et je crois qu'on a compris la noblesse qu'il y avait dans toutes ces personnes qui ont continué de travailler pendant que d'autres, justement, profitaient du confinement. C'est tout cela qui s'est joué et bien sûr c'est paradoxal parce que pour les uns le temps s'est étiré, tous ceux qui étaient confinés et qui restaient à l'abri d'une certaine façon, et pour d'autres il a fallu affronter des dangers.
Est-ce à dire que le temps, c'est aussi, enfin le rapport au temps, c'est aussi comment dire, un luxe ou pas? On verra au long de cette émission. Alors vous vouliez commencer par nous faire un peu de grammaire, car qui dit temps dit donc en partie conjugaison. En tout cas, quand on est face à une professeure de français comme vous, c'est ce à quoi on pense. Qu'est-ce que vous vouliez souligner à propos des temps?
Ce que je dis toujours à mes étudiants quand je commence un cours sur le temps, c'est qu'il n'existe que trois temps. Il y a le passé qui est le temps de la mémoire, le présent que nous partageons et le futur qui est notre avenir. Or, les tableaux de conjugaison ont une complexité qui est en quelque sorte un démenti par rapport à cette simplicité qu'il devrait y avoir avec trois époques temporelles. Donc cette complexité des tableaux de conjugaison témoigne de la difficulté qu'a l'homme à appréhender le temps. Le temps qui est défini par Kant comme le sens interne, c'est quelque chose qui nous est propre, qui nous est intime, on le verra aussi tout à l'heure sans doute chez d'autres écrivains. Le temps donc, c'est quelque chose qui nous fuit et c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi finalement complètement à encadrer par les tableaux de conjugaison.
Il y a combien de temps, vous qui êtes une spécialiste des conjugaisons dans
Alors,
la langue française
en fait, il y a surtout des modes dont je n'ai pas trop le temps de parler, mais qui sont sans doute les plus passionnants, parce que le mode, cela vient d'un mot qui veut dire subjectivité, donc le mode, c'est la façon dont nous imposons notre subjectivité sur une action ou sur un processus, quel qu'il soit. Et c'est là que les choses se compliquent, parce que nous avons la possibilité de placer certaines actions dans la virtualité, dans l'imaginaire, dans des potentialités, et d'autres... de les inscrire dans la réalité. C'est la question du mode.
Donnez-nous un exemple rapide. Donc
avec le subjonctif. Avec le subjonctif. Le subjonctif, c'est le mode par excellence. Je veux que tu viennes me retrouver. Je veux est du présent, donc il s'inscrit dans la réalité. Ma volonté, elle est réelle. Mais le que tu viennes, c'est-à-dire la venue de celui à qui vous vous adressez, elle est virtuelle forcément parce que tout va dépendre de la volonté de l'autre. Et donc là, on bascule dans le mode, c'est-à-dire dans une action dont on ne sait pas si elle va se réaliser. Et c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire ce que coexiste en permanence le temps dans la réalité et le temps dans la virtualité.
Autre exemple de mode peut-être?
Il y a le mode impératif qui est le mode du commandement, bien sûr. Ça aussi, ça fait partie du mode. Voilà. Mais sinon, au niveau du temps, ce qui est intéressant aussi, c'est sa simplification. Le fait que disparaisse de l'usage...
Alors allez-y, oui, c'est important voilà, pour vous de souligner.
Le passé simple, qui était un des grands temps, et c'est le grand temps de la littérature, mais ça n'est plus qu'un temps de la littérature. Les gens qui ne pratiquent pas la littérature, qui ne lisent pas, perdent finalement ce temps. Donc, par exemple, pour le verbe être, hein, je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Bon, voilà. Et c'est surtout pour le premier groupe que les difficultés sont là, parce que au premier groupe, donc chanter, c'est je chantais à I, puis tu chantas, il chanta. Et de plus en plus de gens font la faute, je chanta, parce qu'ils n'ont pas vu que la première personne n'est pas alignée, par exemple. Hein. Donc, il y a une sorte d'étrangeté dans l'usage de ce temps qui était pourtant précieux, parce qu'il permet d'analyser son passé. C'est le temps de ceux qui écrivent leurs mémoires, c'est le temps des écrivains qui essaient de raconter une histoire. Et ce temps est en train de disparaître.
Il disparaît au profit du
passé
présent,
composé.
Du passé composé.
Il disparaît au profit du passé composé. J'ai chanté, c'est-à-dire un temps, comme il est dit, composé, qui est intéressant parce que l'auxiliaire est au présent. Et puis, il y a le participe d'y passer. Et ce passé composé, c'est comme un pont jeté entre la mémoire et le présent. Mais les faits sont ramenés dans le présent. Donc, ça veut dire que le présent gagne en puissance. Cependant que le passé, qui lui était vraiment un vrai passé, si je puis dire, donc le passé simple, lui est en train de disparaître, comme si nous ne pouvions pas laisser notre passé à distance de nous.
Alors l'autre chose que vous teniez à nous préciser au début de cette émission, pour certains ça sera une évidence, mais pour d'autres bien moins, c'est qu'en fait on vit avec, c'est souvent d'ailleurs que, ce que disent des gens qui, vous n'êtes pas philosophe, mais en tout cas j'ai souvenir d'émissions où un philosophe nous aidait à prendre conscience en fait des systèmes de valeurs dans lesquels on était, ou de pensée presque malgré soi. Il en serait d'une certaine manière de même pour le temps, à vous entendre. Qu'est-ce que ça veut dire ? On aurait tous en fait des modes de représentation du temps, on vivrait dans certaines représentations du temps. Alors, je ne sais pas si c'est fonction des auteurs qu'on aime.
Mais... je pense que c'est finalement la mythologie qui peut-être peut nous dire quel rapport au temps nous avons. Il y a le temps chronos, le temps défini par le dieu Chronos, c'est la chronologie, et cette chronologie nous est commune, c'est le découpage en années, le découpage en jours, le découpage en heures. Il y a aussi le temps cyclique, celui de l'éternel retour, celui des saisons, et ça c'est le temps qui était symbolisé par le dieu Aion. Et puis il y a un petit dieu ailé, qui est le plus intéressant, me semble-t-il, c'est le dieu Kairos. Et le Kairos, c'est le dieu de l'opportunité. C'est ce qui fait tout basculer à un moment, et on peut se saisir du Kairos, c'est-à-dire se saisir correctement de ce basculement du temps, ou pas.
Donc là, c'est pas nos représentations du temps, c'est en fait trois formes de temps, quelque part, déjà, qui coexistent dans nos existences, c'est ça ?
Oui, c'est...
Trois petits dieux, le temps qui dure, le temps cyclique... Et le temps du moment, c'est ça ?
Alors, Chronos n'est pas que le temps qui dure, c'est aussi le temps qui est découpé.
Que l'on mesure.
Qui est mesuré et qui, de ce fait, est un temps socialisé également. Socialisé avec les heures, tout ce qui fait la chronologie d'une certaine façon. Aion, c'est le retour des saisons. Hein, chez Nietzsche, par exemple, c'est ainsi que le temps est conçu, comme un éternel retour. Et puis, vous avez le dieu Kairos. Après, il y a aussi une autre opposition importante pour la conception du temps. Et là, ce sera surtout soit le temps cyclique, c'est-à-dire ceux qui pensent que tout revient dans ce monde, et ceux qui, au contraire, croient au progrès, notamment au progrès de l'humanité.
Un temps plus linéaire.
Donc un temps linéaire.
Une finalité, en tout cas.
Et un temps orienté vers une finalité qui porte le nom savant de téléologie, c'est-à-dire un temps qui a une fin, et fin se lit dans les deux sens, c'est-à-dire une finalité, mais aussi sans doute un aboutissement, une apothéose, une sortie du temps d'une certaine façon. Le temps est destiné à ce qu'un jour nous puissions en sortir. Donc ce sont deux visions, je dirais, opposées.
Donnez-nous deux exemples extraits de la littérature, puisque pour l'instant on n'a pas beaucoup parlé directement littérature. Si vous deviez prendre deux illustrations de ce temps cyclique ou de ce temps linéaire, assez frappantes, c'est peut-être des ouvrages qu'on aurait lus ou des écrivains qui ont ce tropisme.
Pour ce qui est du temps cyclique, c'est surtout le philosophe Nietzsche qui a illustré ce temps-là. Je ne sais pas trop s'il y a des écrivains qui se sont directement inspirés de cette représentation. En revanche, l'écrivain qui est en même temps un peu un philosophe, mais au sens 18e-miste du terme, qui peut illustrer le temps orienté, c'est sans doute Condorcet au 18e siècle, parce qu'il croyait très fermement au progrès de l'humanité, et que pour lui, alors qu'il était dans les geôles de la terreur, la Révolution elle-même, y compris dans son débordement violent, était l'illustration que l'humanité avance, et qu'elle avance vers une forme de lumière, et que tout va aller de mieux en mieux.
Allez, on va faire une première pause, et puis on va vous retrouver après pour parler donc de certaines représentations du temps bien présentes dans nos sociétés contemporaines, et y compris dans la littérature. On parlera évidemment de la représentation du temps du christianisme. Il ne s'agit pas de tirer la couverture à soi, mais ça a quand même changé quelque chose dans l'histoire de l'humanité, qui est une finalité ou une fin au temps. On vous retrouve dans quelques instants.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le temps dans la littérature, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Ça en surprendra peut-être certains, en tout cas ceux qui nous rejoignent. Nous sommes avec Violaine Géraud, qui est agrégée de lettres modernes et professeure de langue française à l'université Lyon 3, et qui est une Tarnaise, et qui, en faisant un détour par la littérature et plus largement parfois aussi par la philosophie, mais voilà, les philosophes écrivent aussi, donc c'est peut-être compris dans la littérature, nous aide à relire une expérience récente qui était probablement un rapport assez inédit au temps. Alors, dans cette deuxième partie, on va parler des grandes, on va dire, réalités du temps dans lesquelles on est plongé aujourd'hui. Un rapport au temps assez épicurien, hédoniste, on pourra varier les termes, même s'il y a des réalités différentes. Et puis le temps chrétien, qui est encore celui qui a cours, la chronologie qui a cours, et puis auquel nombre d'auditeurs sont sensibles. Avant, vous vouliez faire un petit détour par la littérature et nous parler de Lamartine. Pourquoi ?
Alors Lamartine, parce que son poème Le Lac est sans doute l'un des plus beaux qui, pour exprimer justement que le temps parfois oublie de suspendre son vol et d'autres fois que le temps va trop vite. Alors c'est le fameux « Autant suspend ton vol » et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Voilà, c'est magnifique, ça dit bien toute la difficulté qu'il y a, c'est-à-dire quand on est heureux, on voudrait que le temps s'arrête. Alors Lamartine a été heureux avec une femme, mais il revient auprès du lac où il l'a rencontrée, elle n'est plus là, elle est très malade, elle va mourir. Et il y a toute cette méditation sur le temps qui est trop rapide pour ceux qui sont heureux et qui, au contraire, coule trop lentement pour tous les malheureux.
Alors vous avez l'air de dire que ça, c'est une constante dans la littérature,
oui.
C'est une constante pour le monde de l'expérience humaine.
C'est une constante.
Mais c'est quoi? C'est le temps, vous dites, c'est le temps qui fuit? C'est quoi? C'est comme un pressentiment d'éternité, mais qu'on n'arrive pas à saisir?
C'est le rapport au temps est douloureux pour les êtres humains. Et on a donc ce cliché, ce qu'on appelle si techniquement un topos, le topos de la fuite du temps, cette idée que le temps nous échappe et que nous sommes engagés dans une tragédie, car bien sûr le temps est tragique puisque comme dans une tragédie, il nous conduit vers la mort. C'est cette perception à laquelle, évidemment, que nous avons tous, mais à laquelle les écrivains ne vont pas répondre de la même façon, selon justement qu'ils pensent que la vie est un passage, ou selon, au contraire, qu'ils imaginent qu'il n'y a que cette vie. Donc ceux qui s'imaginent qu'il n'y a que la vie vont essayer de savourer tous les moments. Donc on a bien sûr les écrivains épicuriens ou hédonistes, et puis ceux qui pensent que la vie est un passage, ont un tout autre rapport au temps.
Alors commençons par les épicuriens, donc avec cette fameuse frate, formule latine, vous dites « carpe diem », je vais vous laisser la citer en entier. Je vous laisse l'expliciter et puis après vous nous dites en quoi, enfin ça va un peu sans dire, hein, mais c'est aussi la philosophie dans laquelle on est tous un peu plongés aujourd'hui.
Alors le père de cet épicurisme, l'un des pères, c'est Horace, outre Épicure bien sûr, Horace qui dans ses odes...
Donc auteur antique.
Voilà, un auteur antique, écrit « Carpe diem, quam minimum credula postero », en français « cueille le jour, présent, sans te soucier du lendemain ». Le fameux « carpe diem », donc il faut profiter de l'instant parce que nul ne sait de quoi est fait le lendemain. Alors Épicure, hein, c'est un philosophe qui avait fondé l'école du jardin en 306 avant Jésus-Christ, où on prône la recherche du plaisir. Mais entendons-nous bien, l'épicurisme...
Alors le jardin, justement, ça n'est pas anodin, expliquez-nous pourquoi.
Alors le jardin...
Il se tenait dans un jardin avec ses disciples,
Parce que, alors il y avait aussi une recherche de frugalité, on se nourrissait de quelques fruits, et puis le jardin c'est un lieu clos, c'est un lieu qu'on peut
C'est le lieu des délices aussi, c'est le lieu du...
Oui, c'est le lieu des délices, c'est le paradis d'une certaine façon qui est évoqué, l'Éden, au travers du jardin. Mais l'école du jardin c'est une école aussi de tempérance, et je voudrais insister sur cet aspect méconnu de l'épicurisme. L'épicurisme n'est pas un hédonisme, c'est une sorte de joie, de profiter des fruits que nous donne ce monde.
Avec mesure.
Avec mesure.
Alors, peut-on faire un lien aussi avec l'hédonisme, justement, qui est, on va dire, la version un peu excessive, voire avec le libertinage? En tout cas, vous le faites pour la littérature, expliquez-nous.
Alors, l'hédonisme, c'est la recherche plus effrénée des plaisirs. Quant au libertinage, c'est un mouvement qui démarre à la fin du XVIIe siècle et qui va surtout monter en puissance au long du XVIIIe siècle. Les libertins ont une conception de l'amour qui est tout à fait différente de celle qu'avaient donc les écrivains au XVIIe siècle. Pour eux, l'amour doit se contenter du moment. C'est-à-dire c'est enfermer l'amour dans le moment, l'enfermer dans le seul plaisir, donc plaisir libertin, plaisir sexuel, sans faire de promesses à qui que ce soit. Mais le plus intéressant, c'est que les plus grands des écrivains libertins, je pense notamment à Chauderlot de Laclos, montrent que cette conception est une impasse.
Les liaisons dangereuses, donc.
Voilà, dans les liaisons dangereuses, qu'elle est terrifiante. Dans les formes ultimes et les plus abominables, oserais-je dire, avec Sade, on voit bien qu'il y a là une sortie de l'humanité. Donc, je ne suis pas sûre que ce chemin pratiqué par les libertins soit un chemin d'épanouissement.
Donc, c'est décrit comme tel dans les liaisons dangereuses, pour
c'est
ceux
décrit
qui ne sont
comme
pas
tel.
Si familiers de
bien
cette œuvre.
Bien sûr. Alors, c'est une œuvre qui échappe en quelque sorte à son auteur, hein. Laclos, qui a été lui-même bon père de famille, fidèle à une seule femme, on a retrouvé sa correspondance, a voulu sincèrement montrer qu'il fallait se garder justement de cette nouvelle morale à l'envers, qui consiste à ne jamais tomber amoureux et à utiliser l'autre comme un objet sexuel. Il a voulu montrer à quel péril cela conduisait. Mais il a fabriqué des personnages, le vicomte de Valmont, la marquise de Merteuil, tellement séduisants par leur intelligence, que d'une certaine façon, l'œuvre lui a échappé. Hein. Lui voulait faire une œuvre morale, hein, on en a toutes les preuves. Mais ça peut être récupéré comme finalement incitant à l'immoralité.
Alors ça, c'est pour la littérature. Je vous pose peut-être une question piège, mais est-ce que cette veine littéraire que vous venez de décrire, et qui est donc une manière de réagir comme à cette nostalgie, si je reprends peut-être votre méditation, enfin votre introduction là, à propos de Lamartine, nostalgie du temps qui file, où là on essaie de dévorer l'instant. Est-ce qu'on y retrouve des traces aussi, je sais pas, omniprésentes dans la littérature contemporaine? Vous n'êtes peut-être pas une spécialiste de la littérature contemporaine, mais est-ce que...
Bien sûr, dans la littérature contemporaine, celui qui montre le mieux la désespérance de notre époque, qui ne s'adosse plus à la moindre spiritualité, hélas, je crois que c'est Houellebecq. Je crois que c'est un auteur qui montre à quel point il n'y a plus finalement d'idéaux auxquels se raccrocher. Il montre toutes les impasses dans lesquelles nous sommes. Voilà, c'est un des écrivains de cette forme de désespoir qu'il traite sur le mode ironique, mais qui est malgré tout bien présent.
Et de cette forme de rapport au temps aussi ou...
Oui, de cette forme de rapport au temps, c'est-à-dire un temps qui se dissout dans une somme de plaisir au lieu de prendre sens. C'est toute la difficulté. Qu'est-ce qui peut donner du sens au temps? C'est de donner du sens à sa vie. Et c'est, je crois, le plus grand challenge, pour parler comme on parle aujourd'hui, hein, le plus grand défi que nous avons à relever.
Alors, si on passe à un autre rapport au temps, votre choix, c'est donc de parler des écrivains chrétiens. Mais vous me disiez pendant la première pause musicale que, d'une certaine manière, en fait, tous les monothéismes décrivent une autre finalité du temps. Voilà pourquoi ce choix des écrivains chrétiens, ça va presque sans dire, mais redites-nous.
Alors, les écrivains chrétiens commencent souvent par méditer sur la mort. On est frappé par le fait qu'aujourd'hui, et dans la période que nous venons de vivre, dans notre monde, la mort est le plus possible occultée. Nous sommes arrivés à un degré ultime avec la période du confinement, puisque les morts sont morts, beaucoup de personnes sont mortes seules, n'ont pas eu d'obsèques, on a déritualisé la mort. C'est toute la problématique d'Antigone, hein, qui était derrière. Antigone qui veut absolument donner des funérailles dignes à son frère et qui s'élève contre Créon. Et je pense qu'il y avait là un danger de déshumanisation, c'est-à-dire si le rituel n'est plus là au moment de la mort, c'est la sortie de l'humanité.
Alors vous dites la plupart des écrivains chrétiens commencent par parler de la mort.
Oui.
Pascal, vous l'avez cité.
Pascal, bien sûr. Bon, mais
vous citerez qui d'autre?
Mais par exemple, Jean de Sponde, qui écrit des poèmes chrétiens avec un qui est magnifique et qui commence et finit par « Messie, faut-il mourir ?» Mais de toutes les façons, il faut mourir parce que tel est le sort de l'humanité. Et puis, moi, j'ai beaucoup travaillé sur les prédicateurs, les grands prédicateurs, aussi, on peut penser à Bossuet, notamment, qui écrit un immense, un très beau sermon sur la mort. C'est la confrontation avec la mort qui doit amener le chrétien à prendre la mesure de sa vie. Voilà. Hein. Et prendre la mesure de sa vie, c'est savoir justement que que cette mort peut intervenir à tout moment et qu'il faut être prêt. C'est-à-dire, il faut être en bonne intelligence, en quelque sorte, avec Dieu. Et du reste, il y a un texte de Madame de Sévigné qui est très étonnant, où elle explique qu'un de ses bons amis, qui était curé, est mort brutalement. Et pour un chrétien du XVIIe siècle, c'est la pire des morts, parce qu'il n'a pas pu se préparer. C'est-à-dire, le rituel de l'extrême onction, cette préparation au dernier souffle, avait une importance considérable. Et alors que nous avons tendance à dire il est mort d'une très belle mort, il s'est endormi dans son sommeil, ou il est mort en un clin d'œil, eh bien pour un écrivain ou chrétien du XVIIe siècle, c'est la pire des morts, parce qu'on n'est pas mort en se réconciliant avec Dieu.
Violaine Géraud, est-ce que de fréquenter des écrivains chrétiens, et peut-être pouvez-vous nous donner d'autres pistes de lecture pendant l'été, quelqu'un qui étude par rapport à la mort, ou si on a envie de revisiter des choses difficiles qu'on a vécues à l'occasion de ce temps de confinement, où le temps nous a paru infiniment trop long, où des grandes questions sont remontées, faut-il les fréquenter à l'occasion de cet été, et quelles pistes de lecture des grands écrivains chrétiens vous nous donneriez ?
Alors moi, l'écrivain chrétien qui n'est pas du tout amusant, mais que j'aime beaucoup, quoi qu'il peut avoir une forme d'humour, moi j'aime beaucoup Pascal. C'est
vrai que c'est pas le plus gai de prime abord.
Non, parce que c'est un janséniste, il a donc une conception...
J'ai souvenir d'une phrase, et à la fin on met un petit peu de terre sur la tête, disait-il.
Oui,
assez contemporain.
Oui, c'est un écrivain exigeant. Sa foi est exigeante. C'est c'est un penseur janséniste. Le jansénisme, c'est la croyance en la prédestination des âmes. Donc, c'est une théologie très particulière. Mais ce qui est intéressant, c'est que les pensées qu'on a retrouvées donc sous une forme fragmentaire auraient dû constituer une apologie de Jésus-Christ. Et il est vraisemblablement l'écrivain qui permet le mieux de se défaire justement de ce qu'il appelle le divertissement, et qui sont toutes les vanités humaines d'une certaine façon, et de se tourner vers l'essentiel. D'où, si je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, cette impossibilité de demeurer dans une chambre, l'homme est finalement prisonnier du divertissement. Et sa véritable liberté, elle est de se tourner d'abord vers sa propre conscience, mais pour y trouver le chemin de Dieu, c'est-à-dire pour y trouver, évidemment, pour y faire la vraie rencontre, qui est celle de la grâce.
Un autre exemple, peut-être, d'un écrivain de prime abord, je ne sais pas, plus... peut-être moins philosophe ou plus gai, qui vous viendrait, notre écrivain chrétien ?
Un écrivain chrétien gai, écoutez, ça n'est pas...
C'est vrai qu'on cherche.
Ça n'est pas immédiat.
Peggy, Bernanos...
oui, voilà, Peggy, que je fréquente moins, parce que c'est vrai que c'est moins ma période.
On ne peut pas dire qu'il soit d'abord gai.
Très, très spécialisé. Mais c'est vrai que Peggy pourrait illustrer à merveille cette idée d'un écrivain chrétien. Est-ce qu'il est plus drôle que Pascal, cela reste à prouver, mais dans ce qu'il écrit notamment dans notre rapport à l'argent. L'argent est un texte formidable qu'il faut tous lire. Alors, il n'est pas gai non plus, mais il nous permet de nous déprendre d'un certain nombre de mauvaises habitudes que nous avons dans nos vies humaines.
On peut citer aussi, c'est pas du tout pour faire mon savant, mais j'aime bien citer cet auteur qu'on connaît peu, Joseph Malègue. Je sais pas si vous connaissez
ne le connais pas.
Voilà, qui est un auteur français qui est souvent cité par le pape François. Joseph Malègue, et c'est dans ses ouvrages que le pape François aurait tiré sa fameuse expression sur les classes moyennes de la sainteté. Voilà, c'est un auteur chrétien, fin du 19e, début 20e, qui est, je crois, originaire de l'Aveyron, si je ne me trompe pas. Violaine Géraud, on va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour continuer à parler littérature. Vous allez nous parler de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, et vous allez voir pourquoi.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Le temps dans la littérature, c'est donc pour rappel le thème de l'émission de ce matin, ce vendredi, en cette dernière émission donc Vivante Église de cette saison 2019-2020, avec Violaine Géraud, agrégée de lettres et professeure de langue française à l'université Lyon 3. Vous vouliez nous parler de Proust à la fin, alors je vais essayer de vous introduire, vous allez me dire si j'ai bien compris. Après, on va dire, cette introduction sur le temps, notre rapport au temps, cette disparition du passé simple, je fais court, hein, qui dit, on va dire, comment dire, un tropisme actuel qui est de vouloir vivre par trop dans le présent. Après ce détour sur ces manières de réagir face à la fuite du temps, le temps, je ne sais pas si on peut s'en saisir, mais on peut, semble-t-il, profiter du temps pour faire de nos vies... profiter du temps pour se plonger dans la littérature et donc découvrir quelque chose de plus grand à l'intérieur du temps, voire même de faire de nos vies une œuvre d'art. Est-ce là un peu la fine pointe de cette digression, de cette dernière partie sur Marcel Proust ?
Bien sûr, puisque Marcel Proust a réussi ce miracle de transformer une vie dissipée en vaine mondanité en une cathédrale de mots qui est parmi les plus somptueuses de la littérature, hein, la recherche du temps perdu, avec ses 6 volumes. Et donc cette puissante métamorphose, elle nous dit justement que tout ce qui est dissipé peut se transformer en œuvre d'art.
Alors, ça, redites-nous aussi son chemin. Parce que...
Alors Proust, déjà, il est intéressant parce que c'est un écrivain confiné, on pourrait dire cela de lui, puisque donc, c'est un rentier, il a la chance de pouvoir mener une vie purement mondaine, qu'il va nous raconter, nous permettant de découvrir tous les snobismes qui sont dans tous les mondes, même si, à la vérité, il fréquente plutôt le haut monde, les gens d'un certain milieu, donc des aristocrates, on pense aux Guermantes, des grands bourgeois, on pense aux Verdurin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il prend conscience de la vacuité totale de sa vie, et c'est là qu'il va entrer en littérature, et entrer en confinement, puisqu'il écrira cloîtré dans une chambre, hein, et toute cette recherche qui est une œuvre immense. Hein. Et donc, il y a ce basculement qu'il fait à un moment donné et qui va transformer une vie perdue en une vie, en une œuvre d'art.
Alors, à vous lire, la première chose à souligner à propos de Marcel Proust, il faut que je retrouve mes notes, c'est que, on va prendre cette phrase, hein, qui est le début à la recherche du temps perdu, c'est bien
oui,
ça. Hein.
Oui, oui.
Longtemps je me suis couché de bonne heure. Longtemps je me suis couché de bonne heure. Là aussi, probablement que ça dit quelque chose à un certain nombre d'entre nous. Et alors là, vous nous dites que il nous aide à rentrer dans une autre notion du temps, c'est-à-dire.
C'est Proust, c'est celui qui va nous parler du temps intime. Il a suivi à l'université les cours de Bergson, qui distingue deux temps, le temps intime, le temps personnel, qui est différent pour chacun d'entre nous. Et puis, bien sûr, le temps qui, tout à l'heure, dans l'exposé que j'ai fait, était chronos, donc le temps qui est mesuré, qui nous est extérieur. Et Proust va vraiment être frappé par cette conception et essayer justement de s'accrocher à la durée. Ça, c'est le premier temps.
Quel est le lien avec « longtemps, je me suis couché de bonne heure » pour ceux
longtemps, je me suis couché de bonne heure », vous avez justement le fameux passé composé, hein, qui a pris le pas sur le passé simple. Hein. Et puis, vous avez cette durée de l'adverbe « longtemps », qui est le premier mot de la recherche. Donc, c'est ce premier mot qui n'est pas rien, installe indéniablement une durée, et puis un rite, une habitude, je me suis couché de bonne heure.
Alors, vous êtes très, très bonne professeure, puisqu'après, vous voulez nous parler de la Madeleine de Proust, donc on n'est pas trop perdu, mais peut-être pouvez-vous citer le passage aussi, ou certains des passages, là pour le coup, on n'en est pas tous familiers.
Alors, la Madeleine de Proust est proverbiale. Hein, le narrateur, qui s'appelle Marcel, comme Marcel Proust lui-même, dans La recherche du temps perdu, trempe un bout de Madeleine dans une tasse de thé et il ressent un plaisir tellement violent que c'est sans rapport avec la sensation qui elle, est minime d'une certaine façon. Et donc, je peux vous lire un petit passage. Hein, « Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint, comme un décor de théâtre, s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses dernières, et avec la maison, la ville, la place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses depuis le matin jusqu'au soir, et par tous les temps, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Donc on voit se déployer tous les souvenirs à partir d'une seule sensation, et tout donc, un monde qui apparaît, qui réapparaît plutôt.
Et on retrouve, pour faire le lien avec le début de l'émission, toutes les temporalités mélangées.
Voilà, là c'est la réminiscence, et cette réminiscence, à la différence du souvenir, elle jaillit d'elle-même. Et c'est une sorte de fulgurance, et c'est une sorte de déploiement intérieur de souvenirs que l'on croyait enfouis et enfui. Et ça, c'est magnifique. Et c'est cette expérience que fait Proust et qui va lui donner le déclic. Parce que en lien avec cette expérience bien plus célèbre de la Madeleine, il y a à la fin de l'œuvre, dans le temps retrouvé, on va comprendre comment Proust retrouve le temps, il y a quelque chose de tout aussi anodin que ce morceau de Madeleine trempée. Le narrateur bute sur des pavés inégaux. Et c'est de là qu'il va prendre conscience.
Les pavés inégaux sur
pavés
dans
inégaux,
une rue. Hein.
Il est dans la cour des Guermantes, un lieu où il se rend régulièrement. Il bute sur des pavés inégaux, et là aussi c'est quelque chose de tout à fait anodin. Et c'est de là que naît sa vocation à devenir écrivain, et qu'il décide que désormais sa vie ne sera plus que l'écriture.
Alors expliquez-moi là, parce que j'ai pas suivi.
C'est une sorte de...
Quel est le lien avec le temps ?
Le lien avec le temps, c'est que justement, il retrouve là encore, en butant sur des pavés inégaux, toute une série de souvenirs, et il se dit que ces souvenirs, par leur intensité, sont plus importants que les moments qu'il vit dans son présent. Et il décide que les souvenirs vont devenir finalement... une œuvre d'art. Donc il se dit qu'il vaut mieux qu'il aille vers tous ses souvenirs qui lui provoquent beaucoup plus d'émotions que sa vie ordinaire et que tous ses souvenirs, il va justement en faire une œuvre. C'est comme cela que les choses se produisent et c'est ce qu'il raconte dans Le Temps retrouvé et dans cette page célèbre des pavés inégaux, dites les pavés inégaux, c'est-à-dire il bute, il le trébuche et voilà.
Donc le temps... et sa durée, comme un grand fleuve qui traverse la vie, donc à vous comprendre et à comprendre Marcel Proust, le temps qui est celui donc, du souvenir et donc comme la forme la plus intime, enfin de notre intimité la plus cachée, et après, si j'ai bien compris, l'art comme une manière de sublimer le rapport au temps, c'est ça le dernier
Alors,
point sur lequel vous le dites ?
Chez Proust, c'est d'abord l'art... qui va partir du souvenir. C'est-à-dire, c'est ce désir, tout à coup, de Proust, de ne pas laisser sa vie s'épuiser en vain dans les snobismes, dans les mondanités, dans tout ce qui a fait sa vie jusqu'à ce moment où, justement, il prend conscience que c'est une vie qui ne sert à rien, c'est une vie perdue. Et par le souvenir, il va essayer de capter ses émotions du souvenir. Il va donc retracer toute sa trajectoire personnelle à partir du moment où il était enfant. Il va revenir sur toute cette trajectoire avec les 6 textes qui se suivent. Et de cette façon, le temps qui avait été gâché va devenir un temps artistiquement réussi, une œuvre d'art.
Alors si je vous fais faire le saut de... on va dire peut-être de sortir de votre rôle de prof, même si ça n'était pas du tout un cours. Hein. Et nous, dans tout ça, j'ai envie de dire, et de fréquenter, on va dire, entre autres, peut-être Marcel Proust,
oui.
qu'est-ce que ça peut changer ?
Alors, je conseille vivement la lecture de Marcel Proust, parce que c'est un de ces auteurs qui permet...
Pas in extenso, sinon il va falloir un deuxième confinement.
Mais pourquoi pas, petit à petit, parce que c'est l'auteur qui a le mieux décrit les vanités de notre monde. Donc vanité des vanités, tout est vanité, c'est la fameuse parole de l'Ecclésiaste. D'une certaine façon, quoi que ce soit par une autre voie, il rejoint Pascal, nous nous dissipons trop, il rejoint les grands écrivains chrétiens, nous gâchons nos vies et il faut revenir à l'essentiel. Alors pour lui, l'essentiel, c'est l'art. Pour d'autres, l'essentiel, ce sera le retour vers Dieu, donc la jonction avec Dieu. Quoi qu'il en soit, la leçon qui nous est donnée, c'est de bien comprendre là où ce sont des petits riens et d'être capable de nous détacher de ces petits riens et là où se joue l'essentiel de notre vie. Quel sens voulons-nous donner à cette vie pour qu'elle ne soit pas perdue, pour qu'elle ne se perde pas en vanité ?
Et peut-on aller, Violengero, jusqu'à se dire qu'une fois ces ouvrages refermés, on peut nous-mêmes avoir un rapport différent à notre existence? Et peut-être pouvez-vous parler aussi à la première personne. On parle depuis le début d'une expérience tragique, plus ou moins tragique, qu'on a fait du temps à l'occasion de ce temps de confinement. En tout cas, la mort était rôdée, ou en tout cas, on pouvait avoir l'impression au début qu'elle rôdait partout. Est-ce que vous, et du coup, est-ce que nous, en fermant ces ouvrages, on peut du coup aussi appréhender la vie différemment, et pourquoi?
Je le crois. Nous avons fait l'expérience justement du rapport à nous-mêmes. Je crois que cette maladie qui tout à coup s'est abattue sur nous, nous a permis justement de savoir qu'il y avait des choses essentielles dans nos vies, qu'il fallait à toute force préserver. Je pense justement à notre rapport à la mort, qu'il fallait que ce rapport à la mort, que toute notre société tend à oblitérer, il est essentiel, il constitue finalement l'existence humaine. L'existence humaine, c'est la finitude, c'est ce qui nous est imposé. Et cela nous demande d'aller au-delà, bien sûr, donc d'essayer de découvrir dans la vie tous les signes qu'il y a autre chose que cette vie matérielle, tous les signes qu'il y a Dieu qui fait signe, justement, hein, les signes de Dieu. Et tout cela est important et la période du confinement était très propice, je crois. Et il me semble que quand on est chrétien, on vit beaucoup mieux un confinement que quand on ne l'est pas, en tous les cas.
Voilà, bah, fréquenter tous ces auteurs, on peut fréquenter tous ces auteurs à l'occasion de ce temps de vacances, peut-être comme une manière donc de relire nos expériences. Merci beaucoup, Violengero, d'être venu ce matin au micro de cette émission. Un grand merci à vous.
Merci de m'avoir reçu. J'étais très contente de ce moment passé avec vous.
Eh bien, tant mieux. J'espère que les auditeurs l'ont été aussi, et je n'en doute pas. Cette émission, merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h en podcast ou sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous non pas demain, mais à la rentrée.